content d'être là ce matin. Puis je vois qu'on a déjà pas mal rigolé, c'est très bien.
D'accord.
C'est un peu, pas le thème du message, mais en tout cas, l'atmosphère que j'aimerais avoir ce matin. Parce que, voilà, peut-être que ceux qui étaient là cet été m'ont entendu prêcher des choses pas forcément faciles, les épreuves et tout ça. Et puis je me suis dit, ce qui serait sympa ce matin, c'est de rigoler un peu. Donc je pense qu'on a bien commencé. On va éviter de voilà, s'auto-flageller, machin. On va plutôt essayer de rigoler un peu, mais sans perdre de vue quand même le fond. Le fond qui va être important. Et je vous préviens déjà, je vais faire un appel à la fin. Donc essayez de tout retenir pour avoir votre examen. Voilà. Alors, je réfléchissais à ce que Dieu voulait que je vous partage ce matin. Et puis il m'a envoyé un email. Donc c'était assez pratique. Bon, pas lui directement. Mais je réfléchissais sur quelque chose, et puis il y a un pasteur qui a envoyé un email à pas mal de gens, et puis voilà, il y avait quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Je dis, mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, en tout cas une petite partie de ce qu'il disait, ça correspondait. Et en fait, ça correspond à un concept théologique, très profond, qui s'appelle l'effet waouh. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'effet waouh. J'ai une petite démonstration audio. Alors, on va voir si ça marche.
Waouh !
Voilà, ça, c'est l'effet waouh. Je vous le refais.
Waouh !
C'est pas mal, hein ? Alors, on peut lancer la première diapo qui est vide. Merci. Je pense qu'il y a moyen de peut-être se mettre dans l'ambiance et puis de pratiquer un peu ce concept théologique. Alors je vous invite à vous lever et puis on va faire l'exercice. Ouais. 3, 2, 1 et puis on va faire un beau waouh, d'accord ? Alors 3, 2, 1.
Waouh !
Je pense qu'il est pas mal, mais imaginez que je suis Jésus et que du coup il y a quand même un peu plus. Alors, on va le refaire. 3, 2, 1.
Waouh !
Là vous êtes chaud là. On est bon, on est bon. On est bon. Alors, pour nous accompagner, ça va marcher comme il faut, il y a aujourd'hui le pot de Jésus. Alors, le pot de Jésus, c'est tiré d'un film que je ne vous recommande pas. Enfin, si vous voulez rigoler un peu, oui, mais bon, il est quand même un peu décalé, un peu déjanté. Je ne donne pas le nom. Mais ça fait rien. Et si vous allez le voir, n'oubliez pas de passer vous confesser à votre pasteur, qui de toute façon l'a vu il n'y a pas longtemps, donc il pourra facilement vous pardonner, vous béatifier. Puis tout. En tout cas, c'est lui qui va nous accompagner, et je le trouve cool, moi. Il ne faut pas oublier que Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Alors, je vais commencer. On va parler de Jésus aujourd'hui. Donc forcément, on commence par lire l'Ancien Testament. Normal. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et pour émerveiller les foules.
Waouh !
Exactement. Donc, alors bon, vous avez peut-être pas la fin dans votre version, à vrai dire, émerveiller les foules, je l'ai un petit peu tiré de l'hébreu où c'était pas écrit, c'est pas trop grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a une réalité derrière qui est vraie. On peut aller voir, du coup, si ça veut passer, au niveau du Nouveau Testament. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon. Alors, il faisait ça hein, souvent. C'était sympa, Jésus chassait les démons comme ça, et je trouve ça cool. Et quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Là, on ne sait pas si sa femme a apprécié, mais bon, il s'est mis à parler. Et résultat, la foule était émerveillée.
Waouh !
Exactement. Et là, c'est vraiment écrit dans le grec, hein. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit comme ça. Et La foule était émerveillée par ce que Jésus faisait. Et est-ce que c'est juste un effet collatéral, on va dire, ou est-ce que c'était quelque chose Alors, Jésus ne voulait pas faire le spectacle, ce n'était pas son but. Il voulait faire du bien aux gens, il voulait montrer à quel point le royaume de Dieu était proche. Mais, finalement, il y avait cet effet-là. Alors, il n'était pas en mode Instagram, je vais faire des selfies, machin, mais il y avait cet aspect quand même où Jésus a provoqué cet effet waouh sur les foules. Et dans Marc 7, on lit « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Oui, parce que s'il fait parler les muets sans qu'ils soient entendus, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc il faisait les deux. Hein. Voilà. Si les muets parlent et qu'ils ne soient entendus pas, ça sert à rien.
Il y a une cohérence.
Et voilà, c'est une cohérence. Et donc, là, on nous parle qu'il fait des choses merveilleuses, mais plus que de faire des choses merveilleuses, il est merveilleux lui-même. On a un petit exemple dans Ésaïe, encore dans cet testament, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Bon, c'est un peu Noël dans trois jours, je place quand même un verset qui correspond. Hein. Mais l'idée, c'est qu'après, on parle de qui il est, de sa nature. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, il nous est parlé que Jésus sera appelé admirable. Je vous ai mis le mot en grec, là, phélère, qui veut dire admirable. Qui veut dire admirable, oui. Mais aussi qui veut dire prodigieux, merveilleux. On a donc là la nature de Jésus-Christ lui-même, qui est d'être admirable. On l'admire, quand on le voit, on l'admire, même sans qu'il ait fait quelque chose. Et donc, on arrive à un Dieu duquel on peut dire régulièrement, il est trop fort, quoi. Franchement, il est merveilleux, il fait des choses extraordinaires. Et la foule, du coup, suivait ce Jésus qui faisait des choses extraordinaires, certainement beaucoup pour voir des miracles, des prodiges, des choses incroyables, des choses merveilleuses. Et entre les deux, entre deux miracles, ils étaient bien obligés d'écouter ce que Jésus disait, quoi. Et de se rendre compte que non seulement ce qu'il faisait était merveilleux, mais aussi ce qu'il disait. Et d'être comme ça interpellé par le message de Jésus-Christ, et de finir par, à un moment donné, l'accepter comme le Messie. Et ces émerveillements que Jésus suscitait, vraiment, ça provoquait chez les gens qui étaient là, du respect pour lui, de la crainte aussi, parce qu'il faisait des choses, voilà, chasser les démons avec autorité, etc. Pouvait susciter aussi de l'amour, de l'attachement, les gens le suivaient, ils s'attachaient à lui, le désir de le suivre, aussi le désir de vouloir lui faire plaisir, et aussi, certainement, le désir de lui ressembler et de faire la même chose. Pas pour épater forcément la galerie, mais parce qu'il faisait des choses qui sont bonnes, quoi, qui sont justes. Quand on guérit quelqu'un, on fait quelque chose de bon pour la personne. On ne cherche pas d'abord à se faire valoir, mais à apporter, au travers de l'amour et puis de ce que Dieu peut faire de miraculeux, d'apporter des choses qui sont bonnes. Alors ça, c'était pour Jésus. Ensuite, vers les apôtres. Dans Marc 16, c'est un peu plus petit, mais ça reste lisible, sauf le bas peut-être. Marc 16, voici les signes, c'est Jésus qui parle, aux 11 apôtres. Il n'y en a plus que 11. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alors Jésus dit, vous allez faire tout ça. Et qu'est-ce qui se passe en effet quand on lit Acte 5 ? Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ce que Jésus a dit s'accomplit. Dans Acte 15, on voit la même chose. Toute l'assemblée, comme si on était là ce matin, garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Et là, on imagine l'assemblée qui est en train d'écouter Paul et Barnabas, complètement ébahie, là, la bouche ouverte, filet de bave et tout, enfin le truc, on est complètement ébahi par les choses qui sont faites au travers des apôtres. Alors on ne va pas rentrer dans le débat cessationniste, continuationniste et tout ça. Il est clair que nous aujourd'hui, on a ce que Jésus dit ici, ce qui accompagnera les gens qui auront cru en moi, en mon nom, ils feront toutes ces choses-là. C'est pour nous aujourd'hui aussi, On peut aller chasser les démons, on peut parler des nouvelles langues, on peut attraper les serpents, on peut aller guérir les malades. Tout ça, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Et du coup, cet effet waouh qu'on a vu sur Jésus, cet effet waouh qu'il y a sur les apôtres, c'est aussi cet effet que nous, on peut porter dans nos vies. Et je voulais juste prendre quelques minutes ce matin pour essayer d'approfondir les choses. Comment ça marche? Comment ça marche? En tout cas, est-ce que aussi déjà on a envie? Est-ce qu'on a envie que nos vies, les gens nous regardent et fassent waouh? Le but, c'est pas de se mettre en avant. Le but, c'est de mettre en avant ce que Dieu fait dans nos vies et au travers de nos vies. Et que ce soit pas un waouh pour notre personne, mais un waouh pour ce que Dieu fait. Et je pense que là, on est dans le fait d'apporter le royaume, comme Jésus a fait. Le royaume est proche. Et tu te rapproches de Bernard, tu te rapproches du royaume. Et le royaume doit se voir. Je prends un exemple, c'est sur le premier rang. Donc, il y a cette chose-là qu'on a envie que les gens puissent se dire, il n'est pas que terrestre celui-là, il y a quelque chose de louche, quoi, je veux dire. Il y a un truc qui fait waouh, et pas un waouh humain, je veux dire, c'est pas parce qu'on arrive avec une Tesla ou... C'est quoi une Tesla? Une Tesla, c'est une super voiture, très luxueuse, qui roule toute seule, et en tout cas qui avec un moteur électrique fabuleux, qui a été créé par Elon Musk. C'est qui celui-là? Et le mec, il s'est dit, moi j'ai fait une super bagnole, ce que je vais faire, c'est que je l'envoie dans l'espace avec un cosmonaute mannequin, un peu fêlé. Par contre, le gars, c'est un milliardaire, donc je vous conseille de prier pour lui. S'il se convertit, ça fera une belle dîme, quoi. Et donc, l'idée, c'est que les gens puissent, en regardant nos vies, en nous regardant, voir au travers Jésus qui est là et qui fait des choses extraordinaires. Mais en fait, avant qu'on puisse refléter comme ça Dieu, Jésus et le royaume au travers de nos vies, il faut déjà que, pour nous-mêmes, Dieu fasse des waouh dans nos vies. En fait. Il faut déjà que on ait vécu avec lui des choses qui soient fortes, qui soient vraies, qui soient profondes et qui nous aient émerveillés nous-mêmes. Alors j'aimerais juste utiliser une parabole, une petite parabole rapidement, que j'appellerais la parabole des paillettes. Si ça veut marcher.
Avec... On perd, on sort ce soir, allez manger dehors. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. Le débardant, en gros, 20 euros. Le pantalon, 25 euros, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? C'est clair que ce soit pas bon, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres?
Bon, elle est pas commode, hein. Elle veut des paillettes et des moulures au plafond. Alors nous, on peut se situer un petit peu comme cette jeune fille très aimable et de se dire, mais nous, on a aussi envie de vivre des choses extraordinaires, un peu qui nous sortent de notre quotidien. Et ça, c'est une manière de demander à Dieu, finalement, de vivre des bénédictions, de vivre des miracles, de vivre des choses pour nous-mêmes, dans notre propre vie, qui fassent une différence et qui puisse nous nourrir de sa présence et de ce qu'il fait dans nos vies. Et ce que la Inès, elle s'appelle, là où elle loupe un truc, quand même, c'est que l'important, ça ne va pas être forcément où est-ce qu'on va manger avec Kevin, mais c'est d'être avec Kevin. Et que si on va avec Kevin au McDo, ça peut être tout aussi bien que s'il nous emmène dans un resto très cher, parce que l'important, ça ne va pas être qu'est-ce qu'on va avoir dans l'assiette, mais l'important, ça va être d'être avec Kevin, voyez. Et on peut tout à fait, à vis-à-vis de Dieu, se dire, ouais, moi je veux des paillettes, quoi. Mais finalement, est-ce qu'on veut ce que Dieu nous donne, ou est-ce qu'on veut Dieu? Et la première chose pour que Dieu fasse des choses waouh dans nos vies, c'est déjà de le chercher lui pour qui il est, mais pas forcément pour ce qu'il fait, quoi, en fait. Alors, dans la Bible, il y a un gars qui a voulu les paillettes sans Kevin.
D'après vous, qui c'est?
Simon les magiciens.
Oh, mais elle est trop forte.
On l'a fait cette semaine.
Elle est trop forte, c'est ma mère.
Acte 8. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. » Sépulcre blanchi, on imagine. Hein. « Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Alors lui, il se dit, moi, Kevin, si je peux lui acheter les paillettes, et puis qu'il s'en va, ça me suffit, quoi. Le Simon, le magicien, il est pareil, il dit, Dieu, ouais, c'est sympa, quoi, mais si je peux lui acheter de quoi faire des miracles, ça me suffit. Et là, Pierre il est, et Jean, d'ailleurs, les deux, ils disent, non, ça marche pas comme ça. L'important, ça va être Dieu d'abord, la relation à Dieu, et pas qu'est-ce qu'on en attend. Et on peut tout à fait nous être aussi dans ces dimensions-là et se dire, moi, oui, je prends mon temps quotidien avec Dieu, vraiment, j'ai une relation avec lui. Et puis finalement, que notre temps avec lui, ce soit une liste de choses qu'on lui demande de faire, mais qu'on n'est pas là en train d'écouter ce qu'il veut nous dire en premier rang. Alors, si on veut que notre vie fasse une différence dans celle des autres, d'une manière positive, la manière dont Jésus l'a fait, dont les apôtres l'ont fait, il y a d'abord besoin que Dieu fasse une différence dans notre vie. On va mettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord qu'il fasse quelque chose en nous, avant qu'on puisse libérer quelque chose pour les autres. Et on ne doit pas chercher de manière intéressée plutôt les dons, mais vraiment rechercher la relation d'amour avec Dieu. Alors, on a vraiment besoin de Jésus. Quand on a lu Ésaïe 61, au tout début, il est dit qu'il vient pour les malheureux, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont captifs. Finalement, un peu partout dans nos vies, on peut avoir le cœur brisé, on peut être captif aussi de certaines choses. Jésus est venu pour nous, quoi, premièrement. Et j'ai besoin d'expérimenter sa vie en moi et son règne dans ma vie. Elle est pas mal cette phrase. J'ai besoin d'expérimenter sa vie en moi et son règne dans ma vie. C'est une apanadiplose. C'est beau, hein? C'est une figure de style. Apanadiplose. On dit sa vie en moi et son règne dans ma vie. S'il y a un prof de français dans la salle, qui ne dise pas que j'ai tort, de toute façon, il aura peut-être un peu raison, mais pas trop. Sa vie en moi, ça veut dire j'ai besoin d'expérimenter sa présence dans ma vie. Dans mon caractère, il va transformer ma vie en profondeur, il va guérir mon cœur, il va faire des choses à l'intérieur. Sa vie en moi. Et ensuite, son règne dans ma vie, ça veut dire que c'est lui qui dirige les choses. C'est lui qui va diriger tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est dans mon environnement, tout ce qui est voilà, dans mes finances, dans mes relations. Et il y a vraiment ce besoin, tout d'abord, de recevoir de Dieu, parce que on va rayonner seulement de la lumière qu'on a reçue de lui. Pas autrement. On n'est pas une source de lumière, nous. On n'est pas des lumières. On a besoin que Dieu nous éclaire pour qu'on puisse amener une lumière. Alors, comme je vous disais, de nos jours, ça existe toujours. On est toujours... le Saint-Esprit nous donne ce potentiel aussi de réaliser des choses, de nous donner des dons. Alors, je vais juste vous prendre, comme le temps passe... J'ai encore 22 pages. On va pas trop traîner. Juste vous prendre un petit exemple. Une fois, alors par rapport aux paroles de connaissance ou paroles prophétiques. C'est juste parce que, comme moi, je le vis régulièrement, ça me permet de donner un témoignage. Mais je pense que beaucoup aussi, ici, il y aurait des témoignages de prières, des guérisons qui sont arrivées, etc. Alors, une fois, il y a une personne qui vient dans mon église pour la première fois, que je ne connais pas, et puis j'ai une image de lui avec des mains en or, et le Saint-Esprit qui me donne une interprétation. Donc, je vais le voir à la fin, je lui dis, voilà, je te vois avec des mains en or, et puis Dieu te dit ceci, cela. Bon. Et la personne me dit, mais je suis vraiment très touché, parce que le gars, c'est un Africain, il dit, je travaille à acheter de l'or en Afrique pour le revendre en Europe. Il dit, ce que tu me dis, ça correspond au métier que j'exerce. Et donc, toute la suite aussi du message qui a été transmis par Dieu, c'est quelque chose qui l'a touché. Et moi, je fais waouh, parce que à aucun moment je peux le savoir, moi. Dans ma petite tête, jamais je peux imaginer que ce gars-là, il n'y a pas d'autre moyen que le Saint-Esprit qui vient inspirer les pensées. Et là, on se sent tout juste tout petit à se dire, oh Seigneur, mais voilà, toi tu sais tout. Et à ton écoute, on reçoit des choses pour bénir les autres, et je trouve ça génial. Alors, un autre petit témoignage, c'est un couple d'amis qui ils se sont mariés, et puis pendant des années, ils ont voulu avoir un enfant, et puis ça ne marchait pas. Donc voilà, toute l'histoire de au niveau médical, essaye, machin, puis jusqu'à en arriver au fait de se dire, bon ben, on a un peu abandonné l'affaire, voilà, dans le défaitisme, on a prié, il ne s'est rien passé, le médecin, il ne s'est rien passé, bon. Et puis, cette amie vient à la maison, moi j'étais dans une autre pièce, et puis, je suis vraiment saisi par l'esprit qui me dit, va, prends un papier, et puis écris quelque chose, donc je commence à écrire, et puis ça voulait dire qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait enfanter, puis qu'ils allaient vivre des bénédictions au travers de ça. Moi, je dis, non, Seigneur, je ne peux pas aller donner un truc comme ça. Si je vais aller donner un faux espoir, si finalement ça n'arrive pas, si encore des années avant que ça arrive, c'est compliqué d'aller apporter une parole prophétique comme ça, en se disant, mais ça se trouve, ça va comme ressusciter un espoir. C'était dur. Finalement, je l'ai fait quand même. Et puis, quelques mois après, eh ben, la femme est tombée enceinte. Alors moi, j'ai fait « waouh ». Alors d'abord « waouh », parce que je ne voulais pas le dire. C'était contre mon gré, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas moi qui ai pu inventer le truc. Je dis « Seigneur, de m'avoir inspiré cette parole d'encouragement pour redonner un espoir, c'était « waouh », quoi. Mais j'y étais pour rien. Enfin, j'ai écouté Dieu, mais j'y étais pour rien. Puis après, elle a été tombée enceinte. J'y étais pour rien non plus, moi. Ah, mais je n'ai pas touché, moi. C'est pas de ma faute. Donc, c'est juste des exemples de dire, mais en se laissant interpeller par Dieu, en l'écoutant, on reçoit des choses pour les autres, on reçoit que Dieu veut guérir la personne, on va prier pour elle, on reçoit... Voilà, on vit des choses qui font waouh dans nos vies. Et après, l'étape d'après, c'est en effet de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir vivre des choses, de pouvoir apporter aux autres des choses qui vont faire des waouh dans leur propre vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on va pas pouvoir donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. On va pas avoir une vie où les gens vont nous regarder en étant émerveillés par ce que Dieu fait, si Dieu n'a pas fait des choses merveilleuses dans nos vies. Alors, c'est Jean-Baptiste, j'ai mis sur la suivante, qui dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et nous, ce qu'on va vouloir donner de bon aux gens, c'est les choses bonnes que Dieu nous a données. C'est pour ça qu'il faut être comme des réceptacles pour recevoir les choses que Dieu veut nous donner du ciel, pour qu'on arrive à les retransmettre. Et on peut aller même plus loin. Jésus dit lui-même, là en Jean 8, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis... » et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Si Jésus lui-même ne faisait rien et ne disait rien sans que ça vienne du Père, on peut difficilement faire mieux que lui. Donc on va être forcé, mais avec amour, forcément, d'être à l'écoute de Dieu et de nous laisser interpeller et travailler par lui. Il y a d'autres versets où Jésus le dit, mais il dit « Je ne peux rien faire de moi-même » dans Jean 5. Il nous faut donc absolument recevoir du ciel ce que Dieu veut nous donner. Et c'est seulement quand Dieu va vraiment allumer les choses dans nos vies qu'on va pouvoir les retransmettre. On a donc besoin de se laisser transformer. Et on va lire un passage dans Ésaïe 11. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un ouï-dire. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. On est en train de parler de Jésus là aussi. Encore un texte messianique. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il poussera de la souche d'Isaïe ? Vous êtes posé la question ? Alors, J'ai un peu cherché la réponse et j'ai trouvé la réponse sur un super site qui s'appelle lure.org. Je vous le recommande. Il y a une Bible annotée dans laquelle il est écrit Isaïe est le père de David. Ok, 1 Samuel 17. Et Isaïe ne dit pas du tronc de David parce que le Messie est envisagé par les prophètes comme un nouveau David, sortant donc du même tronc que le premier David. Ce tronc concentre une seconde force pour donner naissance à ce rejeton. C'est un nouveau David, donc il ne va pas descendre de David. Il descend du père de David, donc d'Isaïe. C'est cool. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'étais content, j'avais ma réponse. Et j'aime bien comprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce passage ? L'Esprit de l'Éternel reposera sur le Christ, on sait que c'est lui dont il s'agit, un esprit de sagesse, discernement, conseil, puissance, connaissance, crainte de l'Éternel, justice, fidélité, et d'autres passages dans lesquels on pourrait aller encore plus loin dans la liste des choses qui reposent vraiment sur Jésus. Alors, ça paraît un grand défi, ces choses-là, parce qu'il nous est demandé forcément de suivre l'exemple de Jésus dans nos vies, et donc d'essayer d'avoir tout ça, d'avoir cet esprit de sagesse, de discernement, etc., etc. Mais ce n'est pas un défi que nous, on doit relever par nos propres forces, puisque Jésus lui-même, il est indiqué dans ce passage, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc c'est le Saint-Esprit qui va réaliser toutes ces choses au travers de Jésus, et qui vient aussi le réaliser au travers de nos propres vies. Et ça nous mène directement à Galates 5, 22. Je ne sais pas si j'ai une question. De toute façon, vous le connaissez par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc on retrouve ici des choses qui se recoupent avec ce passage d'Ésaïe, dans lequel il y a des choses qu'on va vivre parce qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit. Et moi, je vais résumer avec deux phrases. La première, c'est que en cultivant la présence du Saint-Esprit en nous, on pourra en voir les fruits. C'est vraiment une histoire de cultiver en soi-même la relation avec le Saint-Esprit, nous laisser travailler le caractère qui va permettre que ces fruits dont il est question dans Galates 5:22 puissent vraiment mûrir dans nos vies. Et puis une autre façon dont je peux le dire, c'est qu'un fruit de l'Esprit, c'est un trait de caractère de Jésus qui pousse en nous. Alors c'est assez logique, puisque l'Esprit c'est Dieu, Jésus-Christ aussi c'est Dieu, on est d'accord jusque-là? Donc, l'Esprit c'est Jésus, vous voyez? Donc les fruits de l'Esprit c'est le caractère de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde m'a suivi? En résumé, Dieu c'est Dieu, donc Dieu. Un fruit de l'esprit, c'est un trait de caractère de Jésus qui pousse en nous. Et c'est vraiment ce à quoi on est appelé pour que dans nos vies, on puisse voir le waouh. Moi, je l'ai vécu personnellement. Dieu qui a touché un trait de caractère, qui a transformé quelque chose du tempérament. Et c'est merveilleux. Et en se laissant transformer à l'image de Jésus, on peut permettre à ceux qui nous entourent de voir l'œuvre de Dieu. Les gens qui nous regardent et qui disent « Dieu a fait quelque chose ». Et là, les gens font « Waouh !» en nous regardant. Là, on a quelque chose, un témoignage vivant qui nous permet d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle, et finalement d'être vecteur du royaume de Dieu. Et si on désire refléter Christ, on n'a pas d'autre choix que de s'approcher de lui pour essayer de lui ressembler de plus en plus. Du coup, voilà, l'essentiel est vraiment de la relation à Dieu, laisser le Saint-Esprit agir en nous, nous transformer, le laisser diriger les circonstances quand on a des choix à faire dans nos vies, écouter Dieu pour qu'il nous donne la direction qui est la meilleure, celle que lui il a choisie, et vivre avec foi et avec confiance. Je suis venu de Montpellier hier, j'ai fait la route en voiture. Et on a pris quelqu'un en covoiturage. Et donc la personne me dit, oui, on parle de Dieu, tout ça. Il me dit, la personne me dit, oui, moi je fais de la méditation. Parce que voilà, pour me retrouver avec moi-même, pour trouver la paix, tout ça, me recentrer. Bon. Je dis, bah, c'est pas mal ça, mais la chose là, que vous faites, c'est d'essayer de trouver en vous-même le moyen d'aller mieux. Et comme s'il y avait quelque chose en soi, quand on n'est pas bien, quelque chose en soi qui va nous permettre d'aller mieux. On peut essayer, mais moi je dis le plus efficace quand même, c'est plutôt que d'essayer de se connecter à soi-même pour aller mieux, c'est de se connecter à Dieu. Parce que c'est lui la source de tout, c'est lui qui nous connaît parfaitement. Alors le gars me disait, oui vous savez, quand on fait de la méditation, ça rallonge les télomères. Alors, physiquement, des études qui disent, voilà, vos chromosomes se rallongent, donc vous dévieillissez un peu, entre guillemets. On dévieillit en faisant de la méditation. C'est très bien, moi j'ai un peu le même principe, mais c'est encore mieux parce que je suis en direct avec Dieu, c'est lui mon créateur, donc il va savoir quoi faire dans mon corps, quoi faire dans mon âme, quoi faire avec mon esprit. Et on a cette connaissance-là, on a offert nos vies à Jésus, et c'est vraiment ce message aussi que je veux vous transmettre, de dire l'important c'est la connexion à Dieu, et pas d'être à demander des paillettes, mais vraiment à demander la présence de Kevin, quoi. Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de réflexion, de se mettre devant Dieu et de pouvoir écouter peut-être ce qu'il a à dire à chacune de nos vies en ce qui concerne vraiment rechercher cet effet waouh dans nos vies. Est-ce que bon, je vais faire un petit résumé pour que l'on puisse revenir sur quelques points. J'ai essayé d'être pas trop long ce matin. Je vais introduire ce temps par un petit dicton évangélique bien connu que j'ai inventé la semaine dernière. Bon, c'est prophétique, hein. Il va être bien connu une fois que je l'aurai dit. Alors, écoutez. Si l'appel de Dieu te creuse, sors de ton trou.
Bravo, bravo.
Si l'appel de Dieu te creuse, donc l'appel. S'il te creuse, vraiment s'il t'interpelle, sors de ton trou. Alors, je veux dire, on pourrait, de manière moins imagée, inviter à se lever de sa chaise. Voilà. Si l'appel te creuse, lève-toi de ta chaise. Qu'on se laisse vraiment creuser par Dieu. C'est vraiment le travail qu'il fait quand on veut l'écouter. C'est-à-dire, on a comme des strates géologiques en nous, des choses qu'on a vécues il y a longtemps, des choses qu'on a accumulées. Et ce que Dieu veut faire, c'est de nous interpeller petit à petit et d'aller de plus en plus profond et d'aller déraciner les choses qui sont mauvaises dans nos vies et d'aller restaurer les choses qui ont été blessées. Et il veut faire ce travail en profondeur. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce jeu de mots. C'est vraiment parce que Dieu, il vient creuser en nous, voilà. Donc, faut quand même pas être pioche pour comprendre. Alors, en résumé de ce que j'ai pu partager, il faut viser déjà Kevin et pas les paillettes. Voilà, ça c'est le message central. Dieu est merveilleux, il fait tout à merveille. Ça, je pense qu'on est nombreux à le savoir, mais est-ce qu'on est nombreux à le vivre? Et c'est ça mon invitation ce matin, c'est est-ce qu'on le vit, le fait que Dieu est merveilleux et qu'il fait des choses merveilleuses. Et Jésus est venu pour qu'on voit ces choses merveilleuses sur la terre, qu'on soit attiré par son œuvre à la croix. Ouais, c'était très bien, hein. Je redirai quelques phrases que j'ai citées. Si on veut que notre vie fasse une différence dans celle des autres, il y a besoin que Dieu fasse une différence d'abord dans nos vies. Donc, qu'on prenne un petit temps, puis qu'on se dise, tiens, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Le Saint-Esprit investit la vie des croyants pour que nous vivions ces choses merveilleuses en nous laissant transformer. En cultivant la présence du Saint-Esprit en nous, on pourra en voir les fruits. Et on veut pouvoir être des témoins du merveilleux que Dieu fait dans nos vies. Et on veut, comme Jésus lui-même, faire tout ça en totale dépendance de Kevin, de Dieu. En totale dépendance, tout faire en dépendance, en étant dépendant de Dieu. Ne pas se laisser aller dans notre vie à faire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il a prévu pour nous. Ne pas nous enterrer dans une vie de routine qui va finalement éteindre ce qu'il a fait en nous et empêcher qu'il continue à faire des choses en nous. On va peut-être fermer les yeux quelques minutes et puis Dieu a de l'humour et je peux vous dire que j'ai certaines blagues, je les ai reçues de la même manière que des fois j'ai des paroles prophétiques et j'ai rigolé avec Dieu en préparant. Mais je sais aussi que il veut venir parler. Il veut venir parler. Il veut venir approfondir la relation qu'il a avec vous. Il veut que vous puissiez avoir soif de lui, soif de sa présence. Et soif d'apporter au monde son amour, tout ce qu'il y a dans son royaume. Et j'ai quelques axes pour cet appel. Et je vous invite juste à vous lever à votre place quand vous sentez quelque chose qui a travaillé en vous, quelque chose qui vous interpelle. Et le premier, c'est tu veux que Dieu fasse des waouh dans ta vie. Peut-être tu te dis rétrospectivement, je réfléchis, je ne vois pas, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas venir prendre le micro en disant Dieu a fait un waouh dans ma vie, il a fait ceci, il a fait cela. Alors peut-être que c'est parce que tu ne vois pas ce qu'il a fait. Mais je sais que si tu as donné ta vie à Dieu, il en a fait. Et la première chose, c'est peut-être de lui demander, ouvre mes yeux, je veux voir ce que tu fais, je veux être reconnaissant, je veux être témoin de ce que tu fais dans ma vie. Et la deuxième chose, c'est aussi de se dire, j'ai des choses dans ma vie où j'aimerais voir Dieu agir. Est-ce que c'est au niveau des guérisons, guérison physique, guérison de l'âme? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau des finances? Est-ce que c'est au niveau des relations? N'hésitez pas à vous lever si vous sentez que vous voulez demander à Dieu d'intervenir dans des choses particulières de vous. Oui, je veux que tu interviennes dans mes relations. Oui, je veux que tu interviennes dans mon corps. Oui, je veux que tu interviennes pour sauver les gens de ma famille. Des choses où on veut pouvoir accumuler des témoignages pour proclamer l'action de Dieu dans nos vies. Viens investir des zones de ma vie où tu es absent. Parce que comme on a chanté, je veux te donner mon être entier. Et on veut que Dieu intervienne partout. Dans chaque instant, chaque moment, on veut que les choses soient conduites par Dieu. Et puis, un autre axe, c'est tu veux que ta vie provoque des waouh dans la vie des autres. Tu veux que Jésus soit visible au travers de toi. Tu veux pouvoir témoigner de sa grâce, de son salut. Et ça va se faire en permettant que les fruits de l'Esprit viennent croître dans ta vie. Et si tu dis, moi j'ai besoin de plus d'amour, tu peux te lever. Si tu ressens que tu as besoin de plus de paix, tu peux te lever. Et tout ce qu'il y a dans les fruits de l'esprit, si tu veux que Dieu te donne plus de qui il est, lève-toi et dis-lui, Jésus, j'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin de vivre ça avec toi. Et puis la parole nous dit aussi, Paul nous dit de demander les dons spirituels. On a le droit de le faire. Seigneur, je veux pouvoir aider mon prochain. avec les dons spirituels. Je veux pouvoir donner des paroles de connaissance qui libèrent, des paroles prophétiques qui encouragent. Je veux pouvoir prier et avoir un don de guérison. Toutes ces choses, Dieu veut le faire. Et il attend qu'on lui demande. La Bible nous dit, réclamez ces dons-là. Il veut le faire, mais il ne va pas nous donner des choses qu'on ne désire pas. Par contre, si on lui demande avec un bon cœur, il va répondre, il va nous donner. Et puis j'avais un petit appel bonus. C'est peut-être ce matin, tu veux vivre un temps spécial avec Dieu, un moment de relation où il va comme épater ton cœur. En fait, tu aimerais rire un bon coup avec Papa Dieu. Passer un bon moment. Je lui dis, moi, préparer ce message, j'ai rigolé avec Dieu. Et ça m'a fait tellement bien. Et on n'est pas devant un Dieu qui est austère, qui est fermé. On a un Dieu qui aime et qui aime l'humour aussi et qui veut nous faire passer des temps de relation avec lui. C'est pas monotone, c'est pas morose, c'est de la joie. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Et si vous avez l'impression que votre vie spirituelle, vos temps avec Dieu sont maussades, demandez-lui cette paix, cette joie, ces choses qui viennent de chez lui, de son trône, qui sont devant sa face, et dites, Seigneur, quand je viens vers toi, je veux lire ta parole, je veux chercher ta présence, chercher ta face, et il y a des moments où on a besoin de paix parce qu'on vit des choses difficiles. Il y a des moments où on a besoin de joie, et la joie est dans la présence de l'Éternel. La joie est dans la présence de l'Éternel.